on a un invité que je qualifierais de fascinant, un gars de Lévis en plus. Julien, bienvenue dans le show.
Allô, merci de me recevoir.
S'il te plaît, ton nom de famille, je vais vite de même, je ne l'ai pas noté.
Julien Garon-Carrier.
Garon-Carrier, bienvenue dans Politigui, correct, la fit est absolument naturelle. C'est Hello veut savoir qui nous a mis en contact.
Exactement.
Et puis, tu sais, on fait rarement du recrutement parce que le temps file. Nous autres, on a rien qu'une heure par jour. Et on n'a plus de chroniqueur trop régulier, mais ça risque pareil d'être ton cas. On va t'entendre le plus souvent possible dans le show parce que
cool.
Ce qui nous manque, c'est de la recherche exhaustive, poussée. Et c'est ce que tu as développé. Au cours des derniers mois, on va parler de toi parce que ça va nous faire de la bonne radio en soi, ton parcours pour t'amener à une totale indépendance maintenant.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, je suis journaliste de formation. Là. J'ai un bac en communication publique, j'ai une maîtrise en sciences politiques. Ça fait longtemps que j'œuvre dans le domaine des médias. J'ai même écrit pour le Peuple de Lévis.
Ben oui!
Avant que ça ferme en 2016.
C'est drôle qu'on s'était jamais croisés.
C'est ça la vie. Mais... J'ai roulé ma bosse aussi à Loire-Blanche, à Montmagny. J'ai fait une maîtrise en Sciences Po. Je suis sorti de là. J'ai été écrit pour l'agence QMI Québécois pendant la pandémie. J'ai écrit là, ouais, mes articles se sont retrouvés au Journal de Montréal, Journal de Québec, etc. J'avais une plume plutôt contestateur, je dirais, pendant la pandémie.
On t'a laissé faire ça à Québec.
Par exemple, j'ai été le premier journaliste à écrire sur les myocardites, péricardites, issus du vaccin, etc. Mmh. Ça, en tout cas, ça a fait polémique, ça c'est sûr. Moi, je me retrouvais plus dans les médias mainstream. Là,
de ce que tu disais, mais de ce que tu te faisais dire par les boss de salles de nouvelles aussi?
Ouais, là, ça c'est un autre... C'est une autre avenue. C'est sûr que tous les journalistes qui œuvrent dans le domaine des médias mainstream font preuve d'autocensure, savent très bien qu'il y a des endroits où tu peux aller, il y a d'autres endroits où tu ne peux pas aller si tu veux conserver ta job ou si tu veux tout simplement avoir le droit d'écrire ou de discuter sur des sujets qui t'intéressent sans te faire taper ses doigts.
Ouais, mais là, t'as-tu écrit ces péricardites, myocardites longtemps?
Non, j'ai fait un article, puis ça a été tout. C'est ça. Fait que par la suite, j'ai cofondé Libre Média, qui a été repris aujourd'hui par Jérôme Blanchet-Gravel.
Ben ouais.
Média indépendant, soit dit en passant. J'ai continué à rouler ma bosse. Moi, je suis sorti de là. J'ai continué à rouler ma bosse. J'ai été directeur d'information dans une station de télévision à TVA en Gaspésie. Je suis revenu à Lévis après un an. Je pense que j'étais complètement désillusionné là, du monde des médias mainstream, puis que j'avais besoin de prendre mon propre envol, tu sais, puis fonder en fait mon propre média indépendant qui s'appelle Indocile Média. Et ça fait 6 mois que ça roule. C'est un site web. Littéralement, moi, j'étais un journaliste de presse écrite, donc j'étais un malade. Là, ça fait 168 jours.
C'est prolifique. Ouais, combien d'articles?
Ça fait 168 jours que le site est en ligne. J'ai écrit 85 articles. Ça veut dire un article ou deux jours, là, tu sais.
Je pense. Tantôt, tu disais, la pandémie a peut-être été un peu le point de bascule, le moment où est-ce que tu as fait comme, OK, je suis plus à l'aise dans ce format-là. Est-ce que déjà d'emblée, il y avait certains éléments qui t'avaient amené dans ta réflexion? Est-ce qu'il y a d'autres dossiers que tu te dis, ouais, OK, c'était pas tout à fait faire le traitement de la nouvelle ou.
Avant la pandémie?
Oui.
Non, avant la pandémie, non.
OK.
Non, j'étais carrément. J'endossais littéralement le point de vue là, du journaliste des médias mainstream où est-ce qu'on est le quatrième pouvoir, tatatitatata, mais tu sais, non, là, mais tu sais, pendant la pandémie, ça m'a semblé évident, là ça a vraiment été...
Réveil, c'est pour bien du monde. Hein?
Oh oui, non, je veux dire, ça a été le point de bascule, comme tu dis.
Mais l'objectivité, moi j'ai étudié aussi en communication, t'as étudié en com à Laval aussi?
Mm-hmm, bon. Mm-hmm.
Puis, tu sais, il essayait de me dire que ça existait l'objectivité dans un... J'ai toujours eu de la misère avec ça. J'avoue que j'ai jamais travaillé dans du mainstream.
Non, mais en fait, l'objectivité existe au sein d'un même article ou au sein d'une série de reportages parce que l'objectivité va consister à donner la parole à la fois aux tenants d'un enjeu, puis à ceux qui s'objectent à cet enjeu-là. Donc, tu sais, tu vas répartir les droits de parole de manière équivalente.
Ben,
c'est ça l'objectivité. C'est ça l'objectivité.
Ouais.
La neutralité, par exemple, n'existe pas. Il n'y a pas un maudit média qui est neutre. Tu sais, je veux dire, tous les médias portent leur signature. Tu vois pas, tu sais, Radio-Canada, ça va être des multiculturalistes fédéralistes. Mm-hmm. Québécois vont être des nationalistes indépendantistes. Tu sais, je veux dire, la neutralité n'existe pas, puis elle se dénote à travers des lignes éditoriales, mais aussi elle va teinter cette non-neutralité-là sur les articles ou les reportages d'actualité normale. C'est bien évident. Puis tu sais, d'autant plus maintenant, aujourd'hui, c'est flagrant dans le journalisme qui se fait post-pandémique.
J'aime toujours avoir les bons mots. Merci de me ramener. Moi, tu sais, je parlais d'objectivité qui n'existe pas parce que une personne objective, à mon humble avis, n'existait pas. Je vais essayer d'utiliser le mot neutralité. J'apprécie ton lexique, là. Mais ça reste que, tu sais, tu as bien beau vouloir, tu as des billets, puis ça va s'infiltrer dans ton travail. Là.
Définitivement. Mais il n'y a personne de neutre. Tu sais, toi, aujourd'hui, là, disons, on va discuter sur les projets de loi, là, C2, C8, C9, ouais. OK. Bon, c'est pas pour une raison X, Y, Z, tu sais, t'as peut-être une opinion là-dessus, mais tu voudras pas la dire, tu sais, ou tu veux... Mais c'est sûr que c'est ton travail. Mais, je veux dire, il y a personne de neutre. Il y a personne de neutre.
Mais comment ça se fait qu'on a pu fonctionner aussi longtemps avec cette espèce d'avatar-là de journaliste réellement objectif? Il en demeure quelques-uns des personnages qu'on observe depuis longtemps, qu'on peut sentir.
Non, mais même ces gens-là qui sont des journalistes de nouvelles objectives ont une opinion. Tu sais, je veux dire, c'est le même concept, si tu veux, que... voyons. Là, j'ai oublié moi.
Un petit blanc.
Non, j'ai un petit blanc. Ça, non, mais écoute, regarde. En fait, là, il n'y a personne de neutre. L'objectivité, tu peux écrire de la nouvelle objective, OK? Tu vas rapporter les faits, mais au fond, toi-même, tu vas avoir une opinion sur ce que tu as rapporté, tu ne l'auras juste pas dit dans ton papier, tu sais.
C'est fait aussi que... l'omission, souvent, qui va être, tu sais, décalée, Chico.
Un peu comme un gardien de prison qui verrait un pédophile, t'as rien que le goût de sacrer une volée, mais tu peux pas.
Ouais, mais en même temps...
non, mais dans un sens, tu vas te retenir parce que c'est...
Mais en même temps, s'il se fait battre par quelqu'un, tu vas peut-être regarder de l'autre côté. Puis, bon, dans... tu parlais, il y a la version du tenant de l'enjeu, puis la personne aussi, après ça, qu'on va citer, qui est à l'encontre de la patente, mais dans les citations, les choix des citations, les angles, il y aura... au pire de l'inconscient, mais tu sais, j'allais dire, il reste quelques figures journalistiques que je vois, que je sais, mettons, je ne sais pas pour qui voterait, là. C'est difficile à déterminer, mais c'est pas un gage, anyway, de quelque chose d'objectif. Moi, ma vision, c'est que les gens ne doivent jamais se draper là-dedans. Les médias peuvent essayer, puis en passant, on essaye à CGMD, je ne veux pas, moi, je suis directeur de la station, qu'on ait un billet. C'est tough à avoir. Dans la région de Québec, il y a moins de possibilités pour du monde qui viendrait s'asseoir ici puis aurait un show avec, je sais pas, la tendance plus progressiste. On essaie d'en recevoir puis on essaie de les laisser parler, que ça soit pas juste en mode confrontation, mais c'est tough. Ça reste qu'on veut, mais on laisse les gens être ce qu'ils sont puis on leur dit, t'sais, vas-y. Fait que comme journaliste, es-tu à l'aise avec ça? Est-ce que tu vas donner ton opinion quand on va se parler? Puis dans tes articles, comment tu jongles avec ça?
Ben, tu sais, en fait, étant donné que moi, je suis tout seul dans mon média, tu sais, c'est mon projet, Indocile Média, c'est clair que dans la section éditoriale, ben, tu sais, c'est mon opinion qui se retrouve là. Je fais les deux. Puis quand dans la section actualité, c'est clair que j'essaye d'être plus objectif. Tu sais, c'est-à-dire que je vais rapporter les faits, mais je poserai pas de jugement de valeur dans l'article. Mm-hmm. Alors que dans un éditorial, je vais me gâter. Tu sais, je veux dire, si j'ai quelque chose à dire qui relève d'un jugement de valeur ou d'une analyse critique, c'est là que ça va se retrouver.
Mais tu sais, t'es décalé dans tes choix de sujets par rapport aux médias mainstream.
Ah, complètement.
Et là, quand tu vas...
Moi, je vais où ils ne vont pas, tu sais.
Ouais, mais vas-tu quand même ramener la version à la fin, là, tu sais, la fameuse deuxième opinion contradictoire pour, tu sais...
Pour conserver l'équilibre. L'équilibre dans l'article. Pas forcément.
Il y a assez de monde qui le fait.
Non, mais moi, je me sens pas... Tu sais, je veux dire, Indocile Média, c'est mon projet, c'est mon média. Je me sens pas obligé de le faire, tu sais.
Mais il y en a en masse qui joue avec ça.
Parce que, je veux dire, tu sais, mettons que tu vas lire un article, OK, de l'agence France Presse sur le discours de Donald Trump à l'ONU. Tu penses-tu que c'est neutre, cette affaire-là?
J'ai zéro.
Tu penses-tu que c'est neutre? Tu penses-tu qu'ils vont rapporter l'autre côté de la médaille ou qu'ils vont essayer de, je sais pas moi, noter les bons coups du gars?
Exact.
Jamais! Jamais! Fait que tu sais, moi, je me dis, quand je vois les grandes agences de presse, quand je vois les grands médias faire ça, pourquoi moi je serais tenu à cette forme d'objectivité-là dans mon média indépendant? Non, je veux que mon média ait ma personnalité, that's it.
Puis tu ramènes un peu du balancier à l'échelle plus générale.
Oui, pour l'écosystème dans son entièreté, c'est vrai.
Tout à ton honneur, puis c'est impressionnant le courage que ça demande. Là. On connaît ça à CGMD, t'as pas une machine dans le dos qui est en bourse puis qui a une marge de crédit de 3 millions. Fait que félicitations.
Non, c'est ça.
Puis tu vas être un fit ici, puis dans ce que je sais que tu as travaillé récemment, on parle de médias mainstream, tu sais, il y a un gros lac, un vide sur les trois projets de loi qui sont les plus liberticides, peut-être de l'histoire du Canada, qui sont, comme tu disais tantôt, C2, C8 et C9. Et tu as travaillé sur les deux. Et vas-tu en ordre de.
Peu importe, comme tu veux.
On va commencer par le 2.
OK.
Explique-nous ça en général, puis parlons-en.
En fait, moi, je considère que ces trois projets de loi-là vont poser, vont devenir la prémisse pour l'infrastructure sécuritaire du Canada, c'est-à-dire que ça va être l'instauration de la société du contrôle.
À la chinoise!
Ben, quasiment, parce que, tu sais, à l'Assemblée nationale, on a en ce moment aussi un projet de loi sur l'identité numérique. Fait que, tu sais, quand tu vas coupler tout ça, c'est-à-dire la possibilité du gouvernement du Canada de t'espionner avec C2, la possibilité de censurer les médias sociaux avec C8, puis la possibilité aussi de poursuivre les gens pour du discours haineux avec C9, et tu couples ça à l'identité numérique, tu te dis « Wow, on s'en va vers quoi comme société? » Tu sais, je veux dire, ça va être une société du contrôle. Tu sais, moi, j'en parle dans mes articles, j'ai fait des éditoriaux par rapport à ça, j'ai fait des articles d'actualité aussi par rapport à ça. Mais rentrons dans le vif du sujet, C2. C'est la loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité.
Non, mais c'est bon!
Puis c'est une loi monstre, OK? C'est une loi... c'est une pièce législative qui modifie une vingtaine de lois puis plusieurs règlements, mais en son sein, cette loi-là va édicter une autre loi qui est la loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information.
Ouais.
Puis là, c'est là où ça pose problème, c'est vraiment avec cette loi-là. C'est que, dans le fond, là, cette loi-là, elle a pour but de faciliter l'exercice efficace par des personnes autorisées à avoir accès à de l'information conservée par des fournisseurs de services électroniques, notamment en vue de permettre la communication à des personnes autorisées.
Fait que, bon, exemple concret.
Ben, là, qui sont ces personnes autorisées-là? Ben là, c'est les services de renseignement canadiens, le CRS, la GRC.
La police.
Mais là, c'est aussi la police, c'est ça. Ben, la police municipale peut être là-dedans.
Okay,
tout autre agent de la paix. Tout autre agent de la paix, mais aussi tout membre, tout personnel civil d'une force policière. Fait que ça veut dire que, par exemple, je sais pas moi, la GRC pourrait se doter d'un département civil... d'individus qui ne font qu'analyser les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle tout le temps. Tu sais, puis qui peuvent espionner la moindre de vos communications, c'est-à-dire aussi les services de messagerie privée.
Donc là, on parle des courriels. À avoir des backdoors puis pouvoir y aller comme ils veulent. Fait que je te donne un exemple.
Entre autres.
J'ai une station de radio que je run, j'ai un show qui est tannant. Mais j'ai aussi des business, parce que c'est pas nécessairement ce qui est le plus payant. Puis là, je me mets à faire de l'import-export. Et je sais pas, moi, j'ai un concurrent qui aime pas ça. Il se plaint en quelque part. Et avant que j'aie des accusations là, pour voir si ces plaintes-là sont fondées, ça leur plaît bien, parce que je parle souvent du SCRS et de la GRC ici, comme quoi peut-être même qu'ils sont infiltrés par le gouvernement chinois. Fait que là, ils viennent checker mon WhatsApp, mon Signal, mon Messenger, mes courriels, puis au lieu d'enquêter le crime, ils enquêtent la personne, ce qui est orwellien, kafkaïesque, ce qui est exactement une dérive autoritaire.
Oh, mais tu savais que... En 2024, Cameron Autiste a été condamné, qui était le chef du renseignement pour la GRC, a été condamné à 14 ans de prison pour avoir partagé des secrets des Five Eyes. Okay. Avec des mafias, des cartels mexicains, le Sinaloa, mafia iranienne, etc. Et notamment des triades chinoises.
Ben.
OK? Fait que quand on parle de nos infrastructures sécuritaires qui sont corrompues ou qui sont compromises par des.
Là, avec ces deux, c'est pas là-dedans qui tape. C'est pas pour corriger ce genre de dérive-là. C'est pour le citoyen lambda. Qui peut-être peut, je sais pas moi, organiser une manifestation avec Rambo Gauthier à un moment donné, puis...
Ben, en fait, c'est pour tout le monde.
C'est
pour tout le monde. C'est qu'en fait, le gouvernement du Canada veut capitaliser sur la crise à la frontière.
Ah oui.
Donc, normalement, cette loi-là, c'est pour augmenter la sécurité à la frontière. Le problème avec ça, c'est qu'ils sont supposés engager 1000 agents de l'Agence des services frontaliers du Canada. L'ont pas fait. C'était une promesse électorale. C'est pas encore fait. J'ai écrit un article... justement, je pense qu'il a été publié hier, à savoir que l'Agence des services frontaliers du Canada est complètement dysfonctionnelle. Complètement dysfonctionnelle, OK? Le président national du syndicat, OK, a témoigné au comité permanent national, de la sécurité nationale et publique à Ottawa, OK? Il a témoigné à savoir que s'il y a un agent de douane qui est dans un poste frontalier, qui voit quelqu'un traverser la frontière illégalement, il ne peut pas l'arrêter, il faut qu'il appelle la GRC. OK? OK? Non, mais ça, c'est des consignes qui viennent d'en haut, ouais. Là, tu comprends? Fait que ils sont volontairement. Ils sont volontairement rendus inopérants. Ça, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada. Mais par contre, le gouvernement du Canada veut capitaliser sur une crise à la frontière.
C'est ça.
En espionnant tout le monde.
Ben, t'sais? C'est rare que tu vois un président de syndicat se déchirer sa chemise comme quoi ses membres ne peuvent pas faire une tâche. Il y a mieux qu'ils ne la fassent pas. Là, il est comme, ça n'a aucun sens. T'sais, parallèlement, rendez-vous compte de ça. Si, au lieu de régler ça, ce qui travaille, c'est d'avoir le droit de checker vos courriels pour quelque raison que ce soit, anytime. Puis avec pas de mandat, pour vrai. Là.
Non, c'est ça. C'est un dispositif qui peut être déclenché par voie réglementaire par le ministre. Donc, pour la surveillance de masse ou pour la surveillance d'individus en particulier, ils n'auront pas besoin de mandat.
Un petit décret.
La seule chose pour laquelle ils ont besoin encore d'un mandat, c'est pour pénétrer dans votre domicile privé pour saisir du matériel informatique.
Pour l'instant, par exemple, dans d'autres projets de loi, si tu es accusé de propos haineux, peut-être que ça va être plus facile, on va y arriver.
Allons-y tout de suite.
Juste, on va y aller. Je vois pas d'opposition à la hauteur de ce que ça devrait commander. Puis je vais te le redemander peut-être trois fois, mais est-ce que tu as vu les conservateurs s'indigner de ça à date?
Oui.
OK.
Oui. Oui.
Ouais, de belle façon?
Ben, c'est-à-dire que les conservateurs ont pris position contre ce projet de loi-là.
Ouais.
En fait, en comité parlementaire, les conservateurs dénoncent ce projet de loi-là. Là, ils dénotent leur opposition à ça. Il y a aussi... T'sais, avec ces deux, là, il y a du mouvement en ce moment parce que là, il y a un nouveau projet de loi qui est C-12 qui vient reprendre toute la partie qui traite de l'immigration dans C-2 puis qui le transpose dans C-12.
Ouais.
Fait que là, je me disais, OK, qu'est-ce qui se passe avec ça? T'sais, fait que moi, j'ai écrit un courriel à la personne qui s'occupe des médias à la régie interne du Parlement du Canada. Cette personne-là m'a réécrit, m'a dit non, écoute, C-2 est encore valide, est encore à la deuxième lecture, puis il n'y a pas d'amendement qui a été apporté à ce projet de loi-là. Mais. Par contre,
on va avoir moins d'espoir que ça passe.
En fin de semaine passée, il y a un conservateur, je ne me souviens plus là, c'est de quelle circonscription, ni c'est quoi son nom, là, mais c'est un conservateur du Canada anglais là, qui disait, bon là, on vient d'enregistrer une victoire là, sur C2, OK, le gouvernement recule à cause de notre travail et le projet de loi se transpose dans C12. Mais en fait, C2 est encore valide, puis il n'y a rien qui a changé à l'heure actuelle, sauf la partie sur l'immigration a été transposée dans C12. Mais toute la partie infrastructure sécuritaire est encore valide. Fait que, c'est sûr que les conservateurs jouent une game politique aussi, mais ils s'opposent à ce projet de loi-là. Ça, c'est certain.
Puis le NPD, tu sais...
NPD, on ne s'entend pas.
Mais ils devraient... Tu sais, eux autres, normalement, c'est des anticapitalistes, des anti-forces de sécurité, puis etc., sont complètement pliés. C'est rendu des libéraux. C'est
ben, une en fait,
farce cynique.
T'sais, dans un contexte de gouvernement minoritaire à Ottawa, le NPD devient comme la soupape de sécurité, la soupape de sortie du gouvernement libéral, en fait, là, parce qu'ils ont besoin du NPD pour faire passer des projets de loi. Là, il faut qu'ils votent avec eux.
As-tu espoir que ça passe pareil? Ces deux, ça va-tu passer? Parce qu'avec le NPD, justement, ils peuvent, même si les conservateurs
s'opposent. J'espère que ce projet de loi-là ne sera jamais adopté. Mais
même si les conservateurs s'opposent, ils font faire des amendements. Moi, j'ai pas la grosse confiance qu'ils sont tant que ça contre ce genre de d'encerclement des libertés fondamentales. Le vieux type de conservateur, on n'a jamais eu de scrupules à rentrer là-dedans. Si tu regardes ce qui s'est passé avec le Patriot Act dans les années début 2000, il y a bien des gens au Parti conservateur du Canada qui appuyaient ce genre de cochonnerie-là à l'époque. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être s'en venir. Puis il y a une rapidité dans tout ça. Ces deux arrivent de quel moment? C'est-tu vraiment Carney qui a introduit ça ou c'était là avant?
Non, ouais? c'est capoté. Écoute, tu sais, à l'heure actuelle, on est rendu à 12 projets de loi là, présentés par le gouvernement du Canada depuis l'avènement de Carney au pouvoir. Tu sais, je veux dire, C2, C8, C9, là, c'est tous des projets de loi qui sont problématiques pour les libertés fondamentales.
Puis les trois, c'est Carney lui-même.
Ça émane de lui, ben ça émane de son gouvernement.
Il y en a pas un des trois qui est une continuité de Trudeau qui essaie de finalement faire passer. OK, c'est les trois. Sur 12, il y en a trois qui sont absolument liberticides. C'est ça sa priorité, le gars. Un sur quatre des trucs qu'il y a dans sa mire, c'est ça.
On s'en va vers la société du contrôle avec ces projets de loi-là. Là, tu sais, c'est dans ça.
C8.
Ben, écoute, regarde, C8, c'est une loi qui s'intitule « Loi sur la cybersécurité modifiant la loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois ». OK? Dans les modifications qui sont apportées à la loi sur les télécommunications, le gouvernement peut ordonner aux fournisseurs de services de télécommunications, par exemple comme Bell Rogers, TELUS, Vidéotron, etc., de retirer en tout ou en partie de leur réseau ou installation de télécommunication, les produits qu'ils précisent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils pourraient demander à ces fournisseurs de services-là de télécommunication ou d'Internet de bloquer littéralement des réseaux sociaux. Tu sais, ils pourraient dire... Tu sais, quand on parle d'installation de télécommunication, les produits qu'ils précisent, les produits qu'il précise, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, là?
C'est pas assez large, ça, en plus.
Tu sais, c'est s'ils considèrent qu'il y a des menaces d'ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation de l'environnement démocratique au Canada. Mais tu sais, on s'entend, le convoi des camionneurs, toutes les gens qui ont participé à ça, si cette loi-là avait été en application à ce moment-là, auraient tous été banni des réseaux sociaux.
Puis peut-être, mais c'était tannant, là, ça faisait du bruit.
Puis peut-être même que, par l'entremise de cette loi-là, le gouvernement aurait pu dire, ben là, il y a des tentatives de manipulation de l'opinion publique, on va bannir X, qui était à l'époque Twitter, on va bannir X
du Canada.
Ben là, ouais, non, ça...
Ça revenu?
Non, mais il y a eu un recul là-dessus, là, il y a des poursuites judiciaires. Mais, tu sais, tout ça pour dire... Ils pourraient bannir X du Canada avec ce projet de loi-là. Mais, tu sais, encore là, ils peuvent cibler la population dans son entièreté, mais ils peuvent cibler aussi certains individus en particulier avec le projet de loi. Fait que, quand tu regardes ça, tu te dis, OK...
les intentions deviennent assez claires.
On s'en va où avec ça? Je veux dire, les intentions sont claires.
C'est le contrôle.
Puis, tu sais, le gouvernement peut aussi imposer des conditions par rapport à l'utilisation des produits ou des services que les fournisseurs de télécommunications vont offrir. Fait que là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, par exemple, interdire les réseaux sociaux au moins de 18 ans? Je sais pas, moi. Tu sais, c'est lui qui décide des conditions. Fermer les réseaux sociaux à partir de 20 heures, tu peux plus les avoir. Bloquer une adresse IP. Adresse IP. Parce que toi, là, tu sais, t'as été quelqu'un qui a été reconnu. On va en parler de C9, là, mais t'es quelqu'un qui a été reconnu coupable d'un discours haineux en vertu de C9. OK, mais là, dans tes conditions, mettons, t'es remis en liberté, en probation, là, dans tes conditions, t'as plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Fait que là, ton adresse IP est bloquée. Tous tes réseaux sociaux sont bloqués à cause de C8.
Ouais.
C'est pour ça que je parle d'un amalgame. Tu sais, C2, C8, C9, c'est un amalgame qui vient déterminer l'infrastructure sécuritaire pour la société du contrôle au Canada.
Connais-tu Mike Benz?
Non, je ne sais pas c'est qui.
C'est un gars qui a travaillé au département de la... d'État aux États-Unis.
Oh oui, je sais c'est qui. Oui, oui, oui.
Maintenant, il y a une fondation, il est directeur d'une fondation pour la liberté en ligne.
Oui, je l'aime bien, je le suis sur Rick, ce gars-là, il est fort.
Il est souvent luisant dans ses entrevues, bizarrement, mais à part ça, là, il est excellent à expliquer ce qui s'est produit avec l'attitude donc bien pro-liberté des gouvernements à l'apparition des réseaux sociaux, puis etc. À base, c'était pour foutre la merde dans des pays comme la Russie puis la Chine, puis chose qui peut peut-être se défendre, mais il n'y avait pas envisagé de backlash que ça leur générerait ici. Puis là, ils sont pognés avec un paradoxe gigantesque. Ils essayent de boucher les trous de ça comme ils peuvent. Puis ça, c'est pas juste les États-Unis, c'est évidemment tous les gouvernements occidentaux. Tu mentionnais le Five Eyes tantôt. La souveraineté du Canada, c'est limité quand tes services de renseignement sont en dessous de ceux des États-Unis dans une organisation comme ça. Parle-moi de souveraineté vraiment sérieusement après ça. C'est un peu risible. Puis là, ce que j'entends avec ce que tu viens de dire là, ils peuvent carrément interdire des réseaux sociaux. En tout cas, ça passe, mais ils vont vers là en bloc. Là. C'est le gros de leurs efforts, de la gang de Mark Carney, sont là.
Ben, c'est capoté parce c'est que tu te dis, regarde, avec ces deux, ils vont pouvoir espionner tout le monde, tu sais, sur la base de l'établissement d'une infrastructure sécuritaire pour contrôler les frontières. T'sais, on s'entend, là, s'il y a du monde qui veut le trafiquer à travers la frontière, tu veux espionner leur télécommunication, tu peux déjà le faire. Avec les lois qu'on a à l'heure actuelle. Mais fait que là, ces deux, ce que ça permet, c'est d'espionner tout le monde. Ces huit, ça permet de bannir les réseaux sociaux, soit pour la masse de la société ou pour des individus en particulier. Puis après ça, si on s'en vient avec ces neuf, mais c'est la loi visant à lutter contre la haine. Mais le discours haineux est déjà compris au sein du code criminel à l'heure actuelle.
Je donne l'exemple. En fait, on est plus violent sur la liberté d'expression ici qu'aux États-Unis. On l'est moins qu'à beaucoup de pays d'Europe. Normalement, à mon avis, ça devrait s'arrêter à si t'incites directement à de la violence là. On peut te ramasser puis t'sais, te faire payer pour ça. Genre, faut tuer tel type de personne. Ça, c'est dangereux. Puis effectivement, on doit agir là-dessus. Mais ça a toujours été. C'est là. C'est là même aux États-Unis.
Non, je sais. Mais écoute, regarde, le projet de loi C9, là, il vient redéfinir ce qu'est le discours haineux, notamment en y intégrant la notion de dénigrement. Okay? Fait que là, on définit la haine comme étant un sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement.
Mais plus fort comment que le dédain? J'ai plus de droit. Tu sais, c'est un crime de la pensée, évidemment. Je dédaigne quelque chose, je le manifeste.
Non, non.
Ah, c'est plus fort que du dédain. Qui va décider que c'est plus fort que du dédain?
Non, mais c'est un sentiment qui est plus fort que du dédain. Fait que tu peux exprimer du dédain.
Ouais, mais c'est quand que ça devient plus fort que du dédain?
Ça va être un juge qui va trancher ça. Mais tu sais, on s'entend.
Confiance.
Un juge libéral nommé par le gouvernement libéral. Mais le sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion. Fait que tu peux exprimer du dédain ou de l'aversion. C'est ça que ça veut dire. Mais qui doit comporter de la détestation ou du dénigrement. Okay. Mais là, par la suite, on vient préciser que ça ne peut être quelque chose qui discrédite, humilie, blesse ou offense. Fait que, tu sais, si tu blesses quelqu'un d'un point de vue subjectif, tu l'humilies, tu le blesses, tu l'offenses, tu le discrédites, ça ne rentre pas dans le discours haineux. Fait que, tu sais, qu'il y a une marge quand même, il y a une marge. C'est mais est où la marge entre ça et le dénigrement?
Tu sais, il y a une expression qui se nomme flou artistique.
Complètement.
C'est ça que c'est, là.
Complètement.
Soyez pas naïfs. C'est pas pour protéger des groupes plus que d'autres, là.
Complètement. Mais c'est aussi qu'on peut pas s'extirper de l'ère du temps dans laquelle on se trouve. Tu sais, quand on regarde toute la censure du discours de la part du wokisme, avec les notions de safe space, de cancel culture, je veux dire, l'association de la haine avec du dénigrement, ça devient une pente glissante.
Ben, non, mais honnêtement, en fait, là, t'sais, avec du savon puis du louble.
Ah oui.
Un mélange heureux des deux patentes.
Complètement. Puis en plus, là, les peines d'emprisonnement par rapport à C9 sont complètement ridicules parce que ça s'apparente à un facteur aggravant. C'est-à-dire que si tu commets une infraction en vertu du code criminel, OK, ben là, à cette infraction-là, on va pouvoir analyser si il y a un élément qui relève du discours haineux qui va venir agir comme un facteur aggravant pour lequel tu vas pouvoir être aussi condamné. Fait que, tu sais, les sentences vont varier entre 5 ans, 10 ans, 14 ans. OK?
Pour des propos, pour une pensée.
Ça peut, ouais, mais ça peut être des gestes haineux aussi. Là. Par exemple, on a déjà vu des têtes de porc déposées en face des mosquées. Ouais. Est-ce que ça pourrait se qualifier comme...
Il y avait déjà moyen de pogner le Christ de malade.
Ça pourrait être quelque chose qui se qualifie comme de la haine. Ouais. Bon, c'est discutable. Là. Puis là, ben, si tu commets une infraction criminelle par rapport à ça, ben là, tu viens de trouver un facteur aggravant à cause de la haine que ça contient. Ouais. Mais aussi...
Un grand besoin, aussi, vraiment pressant.
Dans la loi C9, non seulement en incluant la notion de dénigrement dans la définition de la haine, on vient abaisser le seuil de détermination de ce qu'est un discours haineux, mais en plus d'abaisser le seuil pour te qualifier pour du discours haineux, on vient augmenter la facilité pour les condamnations par rapport à ça, parce qu'on retire la nécessité que ce soit des poursuites entamées par le procureur général du Canada.
Ouais.
Donc ça veut dire que tout procureur de la Couronne va pouvoir mener une poursuite en vertu de la loi C9. Avant toujours... ça, c'était juste le ministre de la Justice qui pouvait approuver.
Ils sont toujours tous compétents puis bien intentionnés. Puis c'est le ministre de la Justice aussi peut être mauvais, mais il y a de l'imputabilité politique. Il peut subir des conséquences s'il va trop loin dans le contrôle. Les 4000 quelques procureurs qu'il y a au Québec, eux autres...
Au Canada.
Au Canada, merci. C'est pas... Il n'y a pas cette imputabilité-là. Généralement, il n'y a aucun lien avec quelque élection que ce soit. Donc, c'est encore là. C'est une attaque directe aux libertés fondamentales. Est-ce que les conservateurs, t'es entendu mentionner cette notion de liberté fondamentale-là dans leur contre-attaque?
Ils sont préoccupés. Ils sont préoccupés. C8, j'ai vu une sortie en chambre. Donc oui, ils sont préoccupés. C2, ouais. C8.
Ils devraient être en train de déchirer leur chemise à tous les jours, partout. C'est pas ce que je constate. Je suis déçu de leur travail là-dessus. Puis j'entends pas parler du fait que c'est une attaque généralisée. Là. Je viens de le mentionner. Ouais. C'est 3 sur 12 des projets de loi que les libéraux arrivent avec depuis que Carney est là. Puis il y avait l'été là-dedans.
Écoute, oui, c'est vrai, il y avait l'été. Parce que tu sais, moi, le 26 juillet, j'ai publié mon article sur C2 alors que tout le monde était en vacances. Personne ne parlait de ça. Okay, mais tu sais, moi, j'étais là, j'étais comme wow, fuck, c'est dangereux. C'est quoi cette affaire-là? T'sais, ça a pas de bon sens qu'on ait une loi comme ça au Canada. Vite, faut que j'écrive là-dessus. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, tout le monde est en vacances, le soleil puis tout. Là, wow, là je suis content, tu sais, on commence à en parler, mais ça sort pas encore des médias mainstream. Tu ne vois pas ça à Radio-Canada, tu vois pas ça à la presse, tu vois pas ça dans Le Devoir, tu sais, c'est tout le temps les mêmes affaires.
Mais comment ça peut être rendu là, tu sais, des médias à base, pareil, il y a un ADN de contestataire.
Non. Regarde, les médias sont subventionnés. Sont subventionnés au Canada, OK? Le gouvernement de Justin Trudeau leur a donné 600 millions en 2018. Mm-hmm. OK? Je veux dire, les crédits d'impôt qu'on accorde aux médias traditionnels, etc. Tu sais, il y a un bon...
Ça, des crédits d'impôt, par exemple.
Oui, mais tu sais, non, mais c'est parce que ça fait partie de la patente, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui obtient des crédits d'impôt.
Ah,
là,
ça, c'est vrai.
Je veux dire, regarde...
Toi, t'en as pas, là.
Non, mais
toi, t'en auras jamais.
Moi, je suis un média indépendant, fait que j'ai juste, moi, je peux juste compter sur moi-même pour survivre. Mais tu sais, je veux dire, tu mords pas la main qui te nourrit, tu sais. Te nourrit. Fait que tu sais, les subventions, là, pour les médias traditionnels, puis les crédits d'impôt, puis tout ça, là, tu sais, c'est une forme de fiscalité allégée pour se les acheter, si tu veux, tu sais.
Non, mais pareil, tu sais, ça a pas... Le journaliste, tu l'as vécu, toi, t'as pas eu... t'as eu de l'autocensure peut-être, mettons, mais tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui...
Moi, je me suis
on a des subventions aussi.
Non, mais c'est pas de même que ça se dit non plus. Mais tu sais, on te fait savoir que tu peux plus écrire sa pandémie. Tu sais, il va pas te dire, hey, écoute, regarde, faut que tu arrêtes de critiquer le gouvernement parce qu'on va perdre nos subventions. Il n'y a pas un boss d'entreprise qui va venir te dire ça de même. Mais lui, il va te le faire sentir d'une autre manière. Puis toi, tu vas intégrer cette autocensure-là si tu veux garder ta job par après.
Penses-tu qu'il y en a eu des briefings directement avec des gens au pouvoir où ça va, tu sais, ça va dans l'auto?
Je sais pas.
Imposition plus.
J'en ai aucune idée. Mais tu sais, les gens qui occupent les postes de direction des médias sont assez intelligents pour comprendre où ils doivent aller, comment naviguer dans cet univers-là, sans froisser des personnalités importantes pour continuer d'obtenir leurs subventions.
Pendant la pandémie, moi, je suis convaincu qu'il y a eu des briefings, qu'il y a eu des contacts directs avec des gens qui renaient, mais aussi à qui des médias appartenaient. Puis ça n'a pas été présenté en quiproquo. Là, si vous faites ça, nanana. Ça a été présenté en, ben là, c'est la sécurité menacée. On a besoin de votre collaboration. Puis, parce que clairement, il y a eu des shots top-down, des directives de caler vraiment spécifiques. Là.
Ouais, c'est pas impossible. Puis surtout aussi que pendant la pandémie, là, tu sais, je veux dire, toute la publicité qui a été achetée dans les médias, là, c'était une vraie farce. Là, tu sais, je veux dire, le gouvernement du Québec a dû dépenser quoi, 250 millions là, pour dire au monde de se laver les mains là, ouais. En.
Tu sais, je veux dire, pas pour dire
que porter un masque. Ben,
pas par exemple, okay. Prenez de la vitamine D un peu.
Non, ça non. Mais c'est capoté. Tu sais, je veux dire, quand tu dépenses autant en publicité, là, c'en est une forme de subvention. Là, tu sais, après ça, tu sais, est-ce que tu vas vouloir parler contre le gouvernement?
Mais dans cette optique-là? Ils ont acheté comme des malades. J'ai jamais contesté ces achats-là. Puis j'ai contesté le propos du gouvernement dès le jour 2, Chico, qu'on a...
Ah, même avant que le gouvernement
se prononce. On parlait de licher des poignées de porte, nous autres.
T'es comme, pour combien tu le pognerais, le COVID? Ah, le voyage dans le sud, m'a le prendre.
Mais après ça, dès qu'ils se sont mis en mode hystérie, on l'a dénoncé. On n'a pas été exclus des achats. Peut-être qu'ils nous ont oubliés.
Mais c'est pas impossible. Vous êtes peut-être passés sur le radar. Là, en tout cas, je sais que les radios qui ne sont pas passés sur le radar, eux autres. Là,
mais eux autres, c'est qu'ils ont décidé qu'ils coupaient les achats, ce que j'ai jamais compris. Tu prends le cash, puis tu contestes. Mais ils ont dit, on veut plus garder votre argent. Je comprenais pas. T'avais pas besoin de faire ça. Ils étaient déjà contestateurs. Je les ai trouvés en retard, pas à peu près. Là. Ils ont commencé à avoir un discours... conscient des libertés à l'été.
Au-delà de la publicité gouvernementale, il y a eu aussi plusieurs entreprises privées qui ont retiré des publicités de leurs ondes parce qu'ils tenaient un discours qui allait à l'encontre du discours dominant sur les mesures sanitaires.
Ouais, ça,
fait que là, ça, c'est une forme de mouvement généralisé aussi. Là, ouais. Où est-ce que...
Les embrigadés volontaires de tout partout, ça me vient, ce terme-là me vient de Edward Bernays, le père des...
La propagande.
Oui, exact. Des relations publiques. On n'a pas le temps de rentrer dans Edward Bernays. Juste un petit mot, tu sais, sur le contrôle numérique. Tu sais, il faut numériser des affaires dans la vie, là. Tu sais, maintenant, des fax, c'est correct. Puis c'est l'argument que j'entends le plus souvent quand je manifeste une retenue d'enthousiasme devant ce phénomène-là. Où est-ce que tu voudrais en venir? Qu'est-ce qui devrait nous faire peur de ça? Là? L'identité numérique. Tu comprends que c'est une dernière question qui est grande.
C'est fou, elle.
Non, mais tu sais, 5 minutes.
Non, mais l'identité numérique idéale, crédit social chinois.
Pourquoi?
That's it.
Okay? Comment ça?
Pourquoi? Parce que avec l'identité numérique, si tu associes à ça la monnaie numérique, tu peux contrôler ce que les gens vont acheter, dépenser. Il peut avoir une date de péremption sur l'argent qui va être dans ton compte de banque, etc. Mmh. Ça va être émis par une banque centrale.
C'est possible, finalement. Ça le rend possible, ce contrôle-là.
C'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle.
La porte est ouverte tout de suite.
Puis, je sais pas, t'sais, mettons, toi, t'as pas été un bon citoyen. Tu as obtenu des infractions pour la sécurité routière. Bon, là, sur ton identité numérique, ça vient de transparaître. Tu perds en crédit ou tu perds. Puis, en passant, là, soit dit en passant, le projet de loi là, de l'identité numérique. Là,
il y en a un?
Oui. Il est à l'Assemblée nationale. Il est au Parlement du Canada.
Ah, ouais.
OK. Mais il a été réactivé le 1er octobre dernier.
Ah?
Ce projet de loi-là, là, il semble complètement anodin. Tu sais, c'est juste pour obtenir des services gouvernementaux avec l'État du Québec, etc. Mais quand tu prends le temps de le lire, là, tu te rends compte que le gouvernement s'arroge des droits, s'approprie. En fait, il dit ça peut servir à faire n'importe quoi. Parce qu'il dit, tu sais, dans les conditions qu'il énumère dans son projet de loi, il dit, on peut faire ceci ou tout autre chose. On peut faire ceci ou tout autre chose. Fait que là, tu te dis, OK, ben en fait, tu sais, la
Pourquoi tu prends le soin d'intégrer ça?
La forme du projet de loi que tu nous dis là, va pouvoir être complètement modifié par voie réglementaire par la suite. Puis il y a des affaires qui ne mentent pas aussi là, dans ce projet de loi-là. Par exemple, ça peut être couplé à une infrastructure numérique internationale. Ah, OK, pourquoi tu prends la peine de mentionner ça dans le projet de loi? C'est-tu parce
sérieux?
Que... Oui, c'est écrit dans le projet de loi. Oui, j'ai un article, vous irez sur mon site, indocilemedia.com, dans la section éditoriale. Ça s'appelle l'identité numérique ou la domestication des animaux humains. Mmh. Je passe pas par quatre chemins.
Indocile Média, on va lire ça, on va faire un tour là-dessus. Puis on va profiter de tes travaux de recherche avancés, spécifiques, puis bien étayés, le plus souvent possible dans Politigui Correct. Julien,
c'est merci.
Un grand plaisir. On remet ça anytime. On va s'arrêter quelques instants. Je vais parler de la politique municipale et des réactions à ma prédiction qui n'était pas un appui, Chiquito.
Yes, peut-être faire un petit round-up de la circule parce que ça a été compliqué comme heure de pointe puis ça l'est toujours présentement. Donc, il y a des accidents sur R4 direction sud, évidemment, à l'approche du pont si vous êtes capable de passer par Duplessis. Sinon, Robert Bourassa dans la bretelle donnant accès à Robert Bourassa direction nord, ou pas le best spot. À partir de Charest, c'est au rouge. Même chose sur de la capitale. Cette fois-ci, c'est en est, c'est à la hauteur de Robert Bourassa et c'est... au rouge foncé à cause d'un accident. Sur la rive sud, c'est la classique, le route du président Kennedy. À partir de président Kennedy jusqu'à Taniata, direction ouest.
La référence à Québec pour vos traitements d'épilation définitive. Faut que je me fasse faire ça pour les poils de nez. Avec l'âge, ça augmente. C'est chez Viva Médico-Esthétique. Retenez ce nom-là. C'est synonyme de fiabilité puis de modernité. D'une façon pas mal plus sympathique que ce dont on vient de parler. Le fameux laser Triton est chez Viva Médico-Esthétique. C'est reconnu pour la capacité à traiter tous les types de poils et toutes les couleurs de peau, que ça soit foncé, bronzé, noir. Vous allez chez Viva Médico-Esthétique, vous demandez le laser Triton, peu importe, on va vous traiter. Et c'est le laser le moins douloureux sur le marché. Oubliez la souffrance pour vous débarrasser de poils de façon définitive. C'est chez Viva Médico-Esthétique pour vous débarrasser du tatouage. Faudrait que j'amène ma blonde. Il y a un soleil dans le bas du dos.
T'allais de le voir. C'est
d'une certaine époque que je fréquente à l'occasion qui serait dû pour aller faire un tour chez Viva Médico-Esthétique qui sont à Lévis. Ils sont à Québec. Informez-vous sur le traitement laser au triton au laser, sur le détatouage, sur tout leur service si bien offert. Et le cliniqueviva.com est votre ami. On s'arrête. Je le fais travailler.